France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Ok, boomer, alors la voilà. Cette génération née juste après la guerre, qui n'a eu qu'à se baisser pour ramasser du boulot, qui a profité de la révolution sexuelle, qui a changé de voiture régulièrement et pollué à loisir. La voilà, cette génération qui a profité du boom, de la consommation de masse comme si c'était normal, et de nos ressources comme si elles étaient inépuisables, qui a aussi au passage creusé la dette. La voilà, cette génération qui maintenant nous coûte un pognon de dingue, comme dirait qui nous savons, parce qu'elle a arrêté de travailler à 60 ans et vivra centenaire. En face, il y a les autres, ces pauvres millénials du début des années 80 jusqu'à la fin des années 90, qui sont nés avec la dette, avec la crise, avec le sida, qui ont fait des études longues, oui, mais qui accumulent les stages, ceux qui doivent le remplir, ce déficit creusé pendant des décennies, ceux dont l'assurance chômage est en berne, ceux qui doivent réparer la planète et donc vont devoir se restreindre sur tellement de choses. Évidemment, j'en fais des tonnes et même des doubles tonnes. Il y a bien sûr des retraités pauvres, il y a des jeunes très bien payés, il y a des seniors responsables, il y a des jeunes irresponsables, mais cette affaire de retraite, d'âge de départ, de points, a fait ressurgir l'idée d'une fracture générationnelle que nous avons eu envie d'interroger aujourd'hui. Y a-t-il, sommes-nous encore des générations solidaires ou sommes-nous au bord d'une génération contre une autre ou peut-être d'un monde contre un autre? Parce que celui de nos parents était optimiste, il parlait d'ascenseur social. Quand on imaginait l'avenir, on voyait des technologies, on voyait du progrès, on vivrait forcément mieux. Alors que les jeunes générations aujourd'hui voient plus noir, ils parlent de destruction de l'environnement, ils sont sûrs qu'on vivra moins bien après. Peut-être qu'elle est là, au fond, la vraie fracture, et on en parle ensemble ce soir. Soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Allez Martine, c'est vous qui commencez, soyez la bienvenue, bonsoir.
Je vous remercie, bonjour, bonsoir à tous. Moi, je voulais vous dire que je me retrouve absolument pas dans la description que vous avez fait des seniors.
Ben, j'espère.
Effectivement, vous en avez rajouté des tonnes, oui. Mais j'ai pas l'impression d'avoir surconsommé. Je suis une retraitée très modeste, j'ai une retraite de 1000 euros par mois, je n'ai pas changé de voiture régulièrement, enfin voilà. Ce que je voulais dire ce soir, c'est simplement que depuis que ce gouvernement est au pouvoir, ils n'ont pas cessé de diviser. Ils ont divisé à chaque fois qu'ils voulaient faire passer un programme ou des méthodes. Ils ont divisé le public et le privé, ils ont divisé les malades contre les valides, ils ont divisé les salariés contre les actifs, à chaque fois effectivement pour faire passer des sombres réformes. Je voulais rajouter que les seniors, comme moi, ont beaucoup donné et donnent beaucoup. Moi j'ai toujours œuvré pour les solidarités, j'ai milité syndicalement et j'ai défendu les jeunes et les moins jeunes dans mon entreprise autant que je pouvais. Je voulais rajouter que les seniors fournissent beaucoup d'économies, il ne faut pas l'oublier, et ils fournissent aussi beaucoup de bénévolat dans les associations, ils donnent et ils donnent encore. Moi, je suis absolument très en colère depuis la mise en œuvre de cette réforme. Je ne décolère pas constamment. J'ai une rage constante contre ce gouvernement.
On a bien compris, Martine, voilà. Et aussi ce que ça avait fait ressurgir, en fait. Pardon de vous couper, mais il y a vraiment beaucoup de mots dans ce standard. Et puis c'est bien qu'on essaie d'avancer. On a entendu vraiment ce que vous nous disiez pour répondre à votre question, pour avancer dans ce débat jusqu'à 20h. Serge Guérin est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue spécialiste du vieillissement. Vous avez notamment publié Les Quinquados, c'est chez Kahneman Lévy. Bonsoir Gérard Corniaud.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE, vous allez pouvoir remettre les chiffres dans l'ordre. En ce qui vous concerne, moi j'aime bien le témoignage de Martine. Je vais commencer avec vous Serge Guérin, parce qu'il y a deux choses. D'abord, il y a non évidemment qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais il y a cette idée que on explique, on se justifie, on dit non, c'est pas vrai, comme si effectivement ils avaient le sentiment d'avoir été pointés du doigt comme les responsables de quelque chose en fait.
Oui, Martine réagit parce qu'il y a quand même un discours, il y a une petite musique qu'on entend depuis un petit moment, qui, dans un gouvernement qui se disait en même temps, qui sur la question des générations a plutôt tendance à opposer les générations. Hein, il y a eu la hausse de la CSG, où on expliquait que, bah oui, mais les retraités, ils sont privilégiés, puis ils travaillent pas, il faut qu'ils aident les actifs, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y a quand même quelque chose comme ça, d'un petit peu malsain, qui opposerait les générations, alors que s'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans ce pays, où il y a beaucoup de choses qui sont en difficulté, c'est justement l'intergénération. Il y a plutôt de la solidarité dans les familles, bien sûr, mais c'est pas rien déjà. 23 millions d'heures par semaine des grands-parents vers les petits-enfants pour aller chercher à l'école, et ainsi de suite. Il y a de la solidarité dans le tissu associatif. Sans les retraités, le tissu associatif s'écroule en France. Il y a de la solidarité dans l'entreprise. La personne un peu âgée qui va se faire expliquer des choses par un plus jeune sur l'informatique, puis qui inversement va aider un autre.
Et en même temps, je vais venir à vous Gérard Cornillot dans un instant, en même temps cette fameuse expression « ok boomer », elle n'est pas née chez nous, elle n'est pas née de la réforme des retraites, elle date de bien avant. Donc il y a ce quelque chose dans l'air dont vous parlez, Serge Guérin, va bien au-delà de ce qui se passe chez nous en fait. L'idée que la génération d'en bas, celle qui effectivement a peut-être eu plus une meilleure facilité, on va dire, a pas très bien compris ce qui se passait aujourd'hui. Et ça date pas des retraites et c'est surtout pas français non plus d'ailleurs.
Hein. Alors il y a OK Boomer, c'est la question, c'est une députée néo-zélandaise de 25 ans ainsi de suite. Il y a l'idée chez un certain nombre de personnes jeunes de dire nous, on a compris l'écologie et vous les vieux, vous avez rien compris globalement, sans remarquer que c'est une fraction des jeunes qui sont dans ces thématiques-là.
Évidemment.
Le gros des jeunes.
Une fraction des jeunes et une fraction des plus vieux qui en ont profité de manière aussi outrancière que j'ai décrit tout à l'heure.
Enfin, quand la personne dit « moi j'avais ma voiture » ainsi de suite, c'est aussi que avant, je rappelle que quand René Dumont s'est présenté en 74, c'était pas un gamin René Dumont, c'est qu'il y a un ensemble de gens âgés. Ouais. Quand Haroun Tazieff en parle en 79, il parle déjà du réchauffement
climatique. Sauf que René Dumont fait pas 1%.
Mais y compris les jeunes de l'époque l'ont pas élu, mais c'est simplement qu'à l'époque, que vous soyez jeune ou vieux, c'était des sujets qui étaient très très peu présents. Il y avait qu'une toute petite proportion de militants, mais très très infime, chez les jeunes comme chez les vieux. Et c'est simplement qu'aujourd'hui, que vous soyez vieux ou jeune, vous êtes au courant qu'il y a un sujet climatique.
Gérard Cornillot, je vous ai vu faire la moue deux ou trois fois en écoutant ce petit dialogue.
Bon. Oui, parce que c'est un peu une tarte à la crème, je veux dire, cette affaire de... scission entre les générations, c'est pas nouveau. Hein. Moi, je me souviens qu'en mai 68, on parlait aussi d'une remise en cause par les boomers qui à l'époque étaient les jeunes, et pas les vieux, de la génération précédente. Bon, en réalité, la solidarité entre les générations, du point de vue strictement des transferts, elle se traduit par le fait que les jeunes commencent par dépendre de leurs parents pendant une vingtaine d'années, le temps qu'ils finissent leurs études, etc., qu'ils soient éduqués. Et puis ensuite, sur les 20 dernières années, c'est le contraire. Mais donc là, et c'est ce que vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a bien des transferts importants, des vieux vers les jeunes, des jeunes vers les vieux. Donc, et tout ça s'équilibre à peu près, sachant que la France est dans une situation très favorable, parce qu'elle a une démographie équilibrée, ce qui n'est pas le cas d'autres pays.
Parce qu'on a entendu quand même ces derniers temps, y compris autour du débat sur les retraites, que si on regarde les choses avec une froideur économiste, effectivement, nous avons une population de retraités qui, par rapport, si on la compare avec nos voisins, par exemple, se porte plutôt bien.
Oui, en bien fait, sûr. Oui, simplement parce que la fécondité en France est restée à un niveau satisfaisant depuis la guerre. Ce qui n'avait pas été le cas dans la période antérieure. Et on a donc pas trop de difficultés à financer à long terme des régimes de retraite qui sont démographiquement à peu près en équilibre.
Allez, Chantal s'impatiente, elle a raison. Bonsoir Chantal.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Écoutez, je voulais d'une part, pour ne pas mobiliser l'antenne trop longtemps, déjà dire que je partage totalement ce qu'a dit Martine tout à l'heure. Évidemment, je partage également ce qu'a dit votre premier invité, dont j'ai zappé le nom, ça doit être les baby
boomers. Il s'appelle Serge Guérin, mais c'est pas grave. Ben oui, à votre âge.
Les baby boomers, ils ont des problèmes de mémoire. Alors, je voulais simplement quand même rajouter que moi, je suis assez scandalisée aussi d'entendre des choses telles que celles-ci, parce que je pense qu'elles sont attisées, elles sont mises sur le marché, n'est-ce pas, intentionnellement pour bien diviser les gens. Parce qu'autour de moi, je vis pas dans un monde de vieux, je vis avec des jeunes, parce que je participe aussi à la solidarité dans différentes associations comme beaucoup de personnes de mon âge, et que je n'entends pas ces horribles choses, que nous on a profité de tout, on a détruit la planète, enfin ce sont des horreurs qui sont instillées à mon sens dans la tête des gens. Et je voulais donner un témoignage, c'est-à-dire que je ne sais pas si nous avons profité de beaucoup de choses, mais ce dont nous avons profité, c'est le fruit de notre travail. Personnellement, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. On travaillait 40 heures par semaine et pas 35. Nous n'avions pas de cinquième semaine de congé payé. Hein? Donc, et j'ai cotisé pendant 44 ans, une bagatelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui nous revient, ce n'est que justice. C'est notre argent, on a cotisé pour que les générations précédentes puissent bénéficier d'une retraite, et je trouve tout à fait logique que ce système continue comme cela.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Chantal. Gérard Cornillot, je vous voyais réagir.
Oui, non, mais je crois que ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, un assez bon équilibre dans les transferts intergénérationnels, doit être pondéré par le fait que on a quand même changé de période avec aujourd'hui une croissance extrêmement faible du revenu. Alors c'est une croissance extrêmement faible du revenu pour tout le monde, mais ça change totalement la perspective et en tout cas la façon dont les gens ressentent le progrès. C'est-à-dire que on a vécu, c'est vrai, dans les années 60, une période de très forte croissance où on savait que ça allait mieux et on pouvait le constater, on pouvait le vérifier tous les jours.
Et que ça irait mieux de
aujourd'hui,
toute façon en avançant.
Les générations nouvelles démarrent avec un capital supérieur à celui de ces générations-là, mais par contre, ils connaissent une quasi-stagnation, surtout en début de carrière, entre guillemets. Donc, ils sont dans une situation qui est effectivement, de ce point de vue, assez mauvaise, en tout cas du point de vue de la perception. On peut comprendre très facilement pourquoi ils ont ce sentiment d'être brimés par rapport aux générations antérieures qui, elles, ont vécu des périodes de forte augmentation de leur revenu, mais pas seulement, de leurs conditions de vie.
Je vais vous donner la parole, Serge Guérin, mais Chantal veut réintervenir et aller chez elle. Donc on vous écoute, Chantal, allez-y.
Oui, excusez-moi,
non, vous en prie.
Je suis
vous avez l'esprit d'escalier.
Oui, je voulais simplement rajouter aussi sur la bagarre là, entre les jeunes écolos et les vieux pas écolos, que de nombreuses personnes très jeunes changent de portable tous les 6 mois. Qui se demande donc alors où est-ce qu'on prend le lithium pour fabriquer les piles qui sont dans leur portable.
Vous avez raison, Chantal. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein. Il y a la batterie, il y a les écrans,
On creuse les entrailles de la terre des pays pauvres pour piquer le lithium. Alors les leçons d'écologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, hein?
On a bien compris. Merci mille fois, Chantal. Vous revenez quand vous voulez. Serge Guérin, alors, elle a raison, Chantal, d'abord, hein, sur le portable changé très souvent, les écrans, les emails envoyés, etc., qui sont des choses qui coûtent aussi à l'environnement. C'est toujours bon de le rappeler. Mais encore une fois, j'entends ce ton de crainte, en fait, qu'on ait séparé les générations et qu'il y a besoin, du coup, de se justifier en disant, attendez, ce que j'ai, je ne l'ai pas volé. Et bien sûr que aucune génération ne l'a volé, mais le ton et la justification me semblent très intéressants.
Vous avez parfaitement raison, c'est ce que dit Chantal, d'abord, elle a raison, y compris sur la question écologique. Vous savez, on dit les jeunes sont écolos, d'abord, 20% des jeunes sont mobilisés sur la question écologique, 80% on n'ont rien à faire. Globalement, ça change rien.
Ouais, enfin, il y a quand même une montée d'une
oui,
d'une,
mais encore une fois,
voilà,
entre ce que je dis
qui existe,
et ce que je fais, il y a un sacré écart. J'ai fait toutes les marches sur le climat, les jeunes étaient très présents, enfin cigarette au bec, qui balançaient la cigarette par terre. Donc c'est la question écologique, elle demande à être un peu
vous
plus
exagérez un peu, Serge Guérin, mais
bah, je les ai vus, puis j'en suis. Et puis je fais juste le compte CO2 par exemple d'une dame de 85 ans qui a jamais pris l'avion. Et d'un jeune de 25 ans qui le prend 8 fois par an, sans du tout se poser la question des conditions sociales pour lesquelles il paye 25 € seulement. Donc, les choses sont, en effet, demandent à être beaucoup plus nuancées. Mais ce qu'il y a derrière, vous avez parfaitement raison, c'est que du coup, ce discours porté par le gouvernement, très fortement, porté par un certain nombre de médias, par un certain nombre d'intellectuels ou autres, conduit des gens à se justifier. Or, au lieu qu'on soit dans une logique où on est ensemble dans le commun, parce que la question de l'environnement, que vous ayez 5 ans, vous en ayez 25 ou 85, vous vous le prenez dans la tête. Mmh. Et donc, il y a un commun incroyable autour de l'environnement et on crée du dissentiment, alors qu'elle n'existe pas. C'est plutôt comment on s'associe, comment on coopère, et les gens sont là en train d'essayer de se justifier. Et ça, c'est vrai que c'est très très triste et très très dommageable.
Et je voudrais qu'on inverse la vapeur. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, alors moi je me sens bête parce que j'ai 50 ans et je dois être le plus jeune des auditeurs France Inter. Non, je plaisante pas.
Je suis avec vous sur ce coup-là, Olivier. Mais d'ailleurs, vous avez raison de le souligner parce que appelez-nous les milléniums, appelez-nous pour nous donner aussi votre idée là-dessus. Allez-y, Olivier.
Ben, moi, je suis extrêmement en colère contre la génération qui est maintenant en retraite. Alors bon, moi, j'ai travaillé encore quelques années, hein. J'ai une vingtaine d'années devant moi, je pense. Il y a un constat simple qui est l'évolution du PIB sur les 40 dernières années consacré aux différentes générations, c'est-à-dire aux seniors et aux juniors. Et aujourd'hui, le grand scandale, c'est qu'on consacre énormément d'argent dans toujours plus de sécurité, toujours plus de couverture sociale, des retraites qui bénéficient aux anciens et au détriment peut-être des plus jeunes avec une éducation nationale qui va à volo, des services sociaux d'assistance aux ados qui sont pas à la hauteur. Et finalement, on est en train d'obérer notre avenir au bénéfice immédiat de ceux qui vont partir plus tôt.
Merci pour votre intervention, Olivier. Merci d'aller à contre-courant aussi, Gérard Cornillo.
Oui,
je vous ai vu faire non avec la tête.
Je crois que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que on partage pas le PIB comme ça entre les retraités, les actifs, les plus jeunes qui vont encore à l'école, etc. C'est un petit peu plus compliqué. En réalité, par exemple, la dépense par élève a augmenté, bien sûr. Simplement, la part a diminué parce que le ratio de la population jeune dans la population est plus faible. On n'est plus dans la première phase du baby-boom, où là, on est passé d'une situation où il n'y avait pratiquement pas d'enfants à une situation où tout d'un coup, il y en avait beaucoup. Donc forcément, évidemment, il y avait un choc, par exemple, sur les dépenses d'éducation, mais depuis, on n'est pas vraiment revenu en arrière, même si, évidemment, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas des problèmes de financement de l'éducation. Mais on ne peut pas dire, et ça n'aurait aucun sens, que aujourd'hui, on finance les retraites au détriment de l'éducation. Ça n'a vraiment pas de sens. Ensuite, évidemment, il est tout à fait vrai, alors sur le financement des retraites, qu'on a eu une période d'aubaine démographique. Quand les baby-boomers se sont mis à travailler, de fait, le montant des retraites à payer était faible parce que voilà, mais simplement c'était difficile d'imaginer qu'il en aille autrement. Donc la question, c'est de savoir s'ils ont dilapidé cette. Alors, si ils ont, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens.
Surtout ne le prenez pas au premier degré, ami qui nous écoutait.
C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais donc, est-ce que on n'a pas assez investi ou trop investi ou pas investi au bon endroit? Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. Alors en réalité, ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble de la planète, il y a un ralentissement général de la croissance de la productivité. Et ça, ça génère la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire celle de générations qui ont connu une forte croissance, avec des générations qui suivent, qui, elles, sont dans une espèce de marasme permanent, qui est d'ailleurs contradictoire avec l'exigence d'avoir des comportements de plus en plus vertueux du point de vue de l'environnement, parce que la croissance, c'est aussi des choses qui ont des conséquences pour l'environnement qui ne sont pas forcément favorables. Donc, tout ça fait que, encore une fois, on ne peut pas résumer les choses sous la forme d'une opposition de générations. À chaque moment, c'est la société tout entière, toute génération confondue, qui est confrontée à des situations différentes et qui doit trouver des solutions. Et je pense que, en gros, la France s'en est pas si mal sortie que ça, même si, évidemment, la situation est loin d'être rose.
Serge Guérin, avant qu'on retourne au standard.
Juste pour réagir à ce qu'a dit notre auditeur, c'est il oublie aussi que les gens qui sont à la retraite sont pas des gens qui se tournent les pouces et qui font rien. Un, c'est les gens qui ont cotisé avant, donc l'argent, c'est presque entre guillemets un salaire différé pour une partie. Et deuxièmement, ces personnes-là sont, encore une fois, dans le tissu associatif, aident leurs enfants, leurs petits-enfants, sont 32% des maires de nos communes sont des retraités, ce sont des aidants, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est aussi, faut pas avoir une vision où la personne retraitée serait en retrait et serait sur un hamac ou passer sa vie à faire le tour du monde dans
Ils sont pas dans des paquebots.
Ouais, dans les paquebots qui, eux, pour le coup, sont très polluants.
Ah oui, ça, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Gérard Cornillo, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, est-ce qu'on n'est pas, et depuis le début de ce débat sur les retraites, d'ailleurs, dans une espèce de perception qui est assez fausse, on dit tous que nous cotisons pour notre retraite, en réalité, c'est faux. On cotise pour la retraite des autres et d'autres cotisent pour notre propre retraite.
Tout
donc on
fait.
A un peu le sentiment, au fond, on se vit, on a un système par répartition que nous vivons presque, au fond, comme un système de capitalisation.
Alors,
et c'est ce qui fausse un peu le jeu.
Si vous me permettez juste une petite digression sur cette question capitalisation ou répartition. En réalité, du point de vue des transferts générationnels, c'est la même chose. Ce sont toujours les actifs qui financent les retraites de ceux qui ont cessé leur activité marchande.
Parce que je...
Si vous êtes dans un système de capitalisation, vous avez accumulé du capital, mais au moment où on va vous restituer ce capital sous forme de rente, il faut que les générations d'après acceptent de racheter ce capital, de payer les dividendes et les intérêts qui vont avec. Donc, qui choisissent de payer des dividendes, acheter du capital ou payer des cotisations, c'est strictement pareil du point de vue des transferts intergénérationnels. Donc, l'option capitalisation est une pure option technique, c'est pas une option qui renverserait le partage du financement.
Je vois arriver, parce que j'ai un écran de contrôle que je vous raconte un peu, je vois arriver Claire, jeune, j'ai vu passer un Thomas aussi, mais pour l'instant on n'y est pas, on va écouter Daniel avant. Bonsoir Daniel. Allez-y Daniel.
Bonsoir, moi allez-y. Je voulais intervenir par rapport à la solidarité qui s'exerce au sein de la famille. Donc, nous vivons de plus en plus vieux, donc nous nous trouvons, la génération des baby boomers, souvent en situation d'aider nos parents, qui ne bénéficient pas de grosses retraites, voire de très faibles retraites, et avec des EHPAD extrêmement chères et coûteuses. Et en même temps, devoir bien souvent aider nos enfants qui se retrouvent au chômage, voire nos petits-enfants. Et pour lequel, effectivement, je rejoins l'interlocuteur tout à l'heure qui parlait du manque d'investissement pour les jeunes. Bon, effectivement, il y a une grosse difficulté. Je pense que la répartition, comment dirais-je, au niveau du financement, je crois qu'on mélange deux choses. On mélange la cotisation, les cotisations à la sécurité sociale et au régime de retraite et l'impôt. Et c'est pas c'est pas les mêmes sources de financement. Et je crois que c'est important. Et en tant que retraité, pour ceux qui ont la chance, je vais dire, de payer des impôts, on contribue aussi à financer l'éducation nationale, etc. Donc, pour revenir par rapport à la remarque de l'auditeur précédent, voilà, c'était ce que je voulais dire. Bon, ensuite, une génération, elle n'est pas homogène. Il n'y a pas des riches, des pauvres. Enfin, il y a des riches, des pauvres. Il y a des gens écolos et pas écolos, quelle que soit la génération. Et effectivement, je rejoins un petit peu à notre interlocuteur. Les jeunes ne sont pas forcément plus écolos que les vieux.
Merci beaucoup, Daniel, pour votre intervention. C'est ce que vous disiez, Serge Guérin. Ce qui a changé aussi d'une génération à l'autre, précisément, c'est celle-là. Parce que c'est plus difficile économiquement pour les jeunes qui arrivent sur le marché, les plus vieux, les retraités sont obligés aussi de contribuer pour eux, en partie.
Oui, ce que disait madame, c'est qu'en partie, il y a une génération pivot. Ouais. Les gens qui ont, pour la première fois dans l'histoire, il peut y avoir dans une famille deux générations à la retraite. Mmh. Et donc, vous arrivez autour de la soixantaine à la retraite, vous avez vos parents, et peut-être que vos parents commencent à avoir des difficultés économiques, mais surtout de santé. Et puis, vous avez peut-être des enfants, peut-être des petits-enfants, où il y a aussi besoin de les aider. Donc, du coup, vous vous retrouvez pas du tout à vous la couler douce à la retraite, mais d'avoir tous ces enjeux-là. Il faut rappeler aussi que il y a à peu près 8 millions et demi d'aidants, minimum. La moitié sont des gens qui sont à la retraite. Si on payait ces personnes, faut mettre juste pour les retraités, faudrait mettre à peu près 70 milliards sur la table. Ce sont des gens qui accompagnent un proche, un parent, un compagnon, une compagne,
un
ainsi de suite.
Grand sujet dont on a déjà eu l'occasion de parler au téléphone sonne. Ça a un petit peu bougé cette ligne-là, mais effectivement pas encore tout à fait.
Oui, pas vraiment.
Alors je vous disais qu'on avait une Claire et qu'elle était jeune. Eh bien la voici. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'à 33 ans, je suis pas encore tout à fait sûre d'être très très jeune. Mais bon.
Non, mais pas encore vieille, ça ira Claire, je pense.
je suis dans l'entre-deux, je suis au tout début de la génération milléniale, on va dire.
Allez-y.
Ce que je voulais dire, c'est en fait, l'expression OK Boomer, ce que ça indique aussi, c'est finalement le ressenti de notre génération que nous n'avons pas eu l'opportunité de grandir avec l'insouciance que tout allait venir, que tout était à portée de main, qu'on pouvait tout exploiter et que tout allait bien se passer. On a grandi avec une conscience écologique, avec le fait que tous les fleuves allaient être pollués et qu'en fait on peut plus se baigner comme on veut, où on veut en France, que effectivement l'écologie, en fait, il faut qu'on agisse dès maintenant. Et ça, on a grandi avec cette angoisse-là. Et c'est une angoisse que finalement la génération au-dessus n'a pas vécue. En tout cas, pas vraiment, pas comme nous. Mmh. Et c'est ce qu'on essaye de dire aussi dans cette expression-là.
Merci beaucoup, Claire. Vous en parlez, vous? Vous avez des parents baby-boomers, j'imagine, vous, en fait. Est-ce que c'est des conversations qui existent, ça, ou pas? Est-ce qu'on se retrouve un moment sur cette conversation-là?
Alors, je vais justement en route vers chez mes parents pour Noël, donc je vais avoir cette conversation, je pense, avec eux. Mais de manière générale, oui, effectivement, c'est une conversation qu'on a déjà pu avoir. Mais eux sont très dans la conscience écologique, donc j'ai grandi dedans. Et c'est aussi pour ça que j'ai grandi avec cette conscience et cette espèce d'angoisse et de poids.
Merci beaucoup Claire, je vous souhaite un joyeux Noël. Soyez prudente sur la route vers chez vos parents. Attention aux discussions quand même autour du réveillon. Moi ce que j'aime dans le témoignage que nous a donné Claire, l'un comme l'autre, c'est qu'elle parle du ressenti des jeunes, exactement comme les baby-boomers qui nous ont appelés juste avant avaient ce ressenti qu'il fallait absolument se justifier. Au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. C'est pas deux générations, c'est deux mondes. Un monde optimiste où tout pouvait arriver devant et un monde aujourd'hui qui a l'âge de Claire et qui a l'air d'être beaucoup plus pessimiste que les parents l'étaient, au fond, en fait. Serge Guérin, d'abord, pardon, l'un après l'autre, comme vous voulez.
Alors, non,
pardon. Après vous, je vous en prie.
Oui, Serge Guérin. Alors, déjà, Claire, oui, ok, mais il y a des jeunes de 15 ans qui disent que les trentenaires n'ont rien compris.
Oui, oui, c'est
donc,
certes,
voilà, c'est un peu plus
compliqué.
Toujours
le lieu d'un autre, voilà. Certes.
Oui, deuxième élément, dire que tous les gens, boomers et tout ça, ont vécu dans l'insouciance, elle ne connaît pas l'histoire
non,
du sida, par
elle
exemple.
Non, mais elle parle du ressenti.
Oui, d'accord, non, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Et les gens ont vécu avoir 20 ans au moment du sida, vous n'étiez pas du tout dans l'insouciance. Par exemple, il y avait d'autres inquiétudes sérieusement fortes.
Voilà, alors, ce n'est pas les boomers qui ont eu 20 ans au moment du sida, les boomers, eux, ils ont eu la révolution sexuelle.
Juste pour rappeler, voilà, que à chaque fois et qu'avant, on pourrait dire la guerre froide et tout ça, il n'y a pas eu de, on a toujours une vision mythique d'hier sur la question de l'environnement. C'est vrai qu'encore une fois, les lanceurs d'alerte, qui étaient souvent vieux, n'étaient absolument pas écoutés ni par les jeunes ni par qui que ce soit. Genre encore une fois, les René Dumont, Anco. Voilà. À un moment donné, les réalités sont là. D'ailleurs, les plus âgés peuvent en témoigner encore mieux que les autres, puisqu'ils disent mais moi. Ce qu'elle disait, moi je pouvais me baigner, ou moi au printemps c'était vraiment le printemps. Les gens qui ont 80 ans, ils en témoignent dans leur vie, et ceux-là du coup sont disent, bah nous on le savait pas à l'époque, et donc d'ailleurs pour certains même ils veulent se, entre guillemets, se rattraper. Donc il y a même une conscience écologique assez forte des plus âgés.
Gérard Corniaud.
Oui, je crois qu'on peut pas raisonner sur cette question en faisant abstraction de l'évolution du discours scientifique sur la question de l'environnement. Je pense qu'il y a une rupture à partir du moment avec le GIEC, où ce qui est en cause, c'est le climat et c'est l'avenir de la planète. Avant le GIEC et cette affaire du climat, et ça, il y a eu évidemment des gens qui ont été précurseurs, qui avaient eu des idées, mais ça a été très très peu diffusé, y compris dans le monde scientifique. Donc il faut attendre effectivement un temps assez long pour que cet aspect apparaisse. Les aspects précédents étaient très différents. C'était vraiment, on salit le monde, il faut le nettoyer mieux, etc. Et ça, je pense que dès les années 60, 70, c'est présent. Et c'est présent auprès de cette génération-là. Mais avec évidemment une perspective qui était radicalement différente. Je vous rappelle par exemple que le Club de Rome, qui avait alerté sur des risques environnementaux, prévoyait qu'en 2000, il n'y aurait plus de pétrole. Et que donc, par exemple, un des gros problèmes, c'est de savoir comment on pourrait se déplacer, et ça s'est pas vraiment réalisé. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes scientifiques. Je pense que il faut intégrer cette rupture radicale.
Et vous avez raison, par rapport au Club de Rome 72, où globalement, ils se sont trompés sur certaines choses. Le GIEC, à chaque fois qu'ils ont annoncé quelque chose, ça a été pire, puisqu'ils avaient une sorte de doute scientifique en disant c'est au minimum et à chaque fois ça a été pire.
Mais je pense que les gens qui vous écoutent là et qui sont de la génération millennium sont en train de dire ok boomer quand même de l'autre côté de leur poste au fond, parce que ce que nous disait notre auditrice à l'instant, elle nous parlait aussi de son ressenti, de ce qu'on imagine aussi qu'a été cette génération là et que la génération d'après d'ailleurs imagine de ce qu'est la génération aujourd'hui des milléniums. Donc il y a un moment où on ne se comprend plus en fait entre les deux quand même, ou en tout cas on a du mal à se cerner.
Il peut y avoir un risque d'imaginaire, on va dire. Qu'une partie, et encore une fois, une partie des jeunes qui sont très minoritaires sont conscients de ces questions-là. Et pour cela, en effet, pour certains, ils vont en effet se dire, bon, avant, c'était vraiment plus facile et il y avait une inconscience.
Et Gérard Corniaud, puis après, on retourne au standard.
Oui, alors, il y a une littérature qui n'est pas très développée, mais qui n'est quand même pas négligeable sur la question du bien-être et du ressenti du bien-être dans les civilisations. Ouais. Donc, ce qu'on sait, c'est, un, que ça se transmet pas d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez regarder sur très très longue période, il y a des enquêtes américaines qui portent sur des cinquantaines d'années et qui montrent que il n'y a pas plus de gens satisfaits de leur vie aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 50 ans. Et donc, il y a des espèces d'invariants comme ça. Et c'est un paradoxe pour des économistes de se dire que, par exemple, le fait que la richesse a beaucoup augmenté au cours de ces 50 années, n'a pas produit de bien-être supplémentaire. Alors, il y a deux explications à ça. La première, c'est que les inégalités jouent quand même un grand rôle, c'est-à-dire que en réalité, le bien-être, on le mesure relativement aux autres. Ça, c'est une chose essentielle. Et puis, la deuxième chose, c'est que on est conscient de l'amélioration de la situation que par sa propre expérience. Et donc, par exemple, aucun des milléniums d'aujourd'hui ne peut se rendre compte de ce que représente le fait d'être passé d'une situation où en France, il y avait 10% des logements qui disposaient d'une salle de bain ou d'une douche en 1950, et qu'aujourd'hui, il y en a 99,5%.
Vous avez raison de dire que c'est quand ça nous touche, nous, que, voilà. Qu'on comprend que les choses sont différentes.
La question du ressenti est tout à fait essentielle quand on s'intéresse à ça.
Exactement, exactement, comme à l'inverse, lorsqu'on annonce une pluie de milliards, si on ne le ressent pas, nous, dans notre pouvoir d'achat, c'est comme si ça servait à rien. Il y a une pluie de jeunes qui nous appellent, et c'est tant mieux. Bonsoir, Éloi.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Je vous remercie de prendre mon appel. Moi, je suis un de ces millénioles, pardon, j'ai 22 ans. Et j'étais au début plutôt du côté de la cause inverse, parce que quand mes amis disaient « Ok, boomer », j'avais envie de leur répondre que c'était pas constructif et qu'on allait justement dans l'opposition des générations. J'ai notamment un grand-père qui était très engagé écologiquement et donc qui m'a conduit à moi aussi m'intéresser à ces questions-là. Et ma question, qui est peut-être maintenant un peu tard dans l'émission, c'était à propos de réaction au début de l'émission, où en fait certaines réactions d'auditeurs, notamment la dame qui parlait de ces jeunes qui, en fin de compte, jettent leur mégot de cigarette et changent le portable tous les 6 mois, j'ai l'impression que des arguments comme ça des deux côtés peuvent vraiment conduire à fracturer les deux sociétés. Et j'ai même moi-même eu l'impression que ce hockey boomer, il peut devenir justifié quand on avait des personnes comme ça qui répondaient avec une argumentation de reproches en retour. Je sais pas si
si j'ai bien compris, c'est pas moi, c'est l'autre en fait. Merci beaucoup pour votre question, Éloi, ou votre remarque, Serge Guérin.
Oui,
faut se méfier, faut se méfier de ça en fait.
Il faut s'en méfier parce que
c'est pas vous, c'est moi, vous c'est pire, c'est vous.
La tentation de certains, c'est d'opposer les générations. Or Éloi le dit très bien, que vous soyez jeune ou vieux, on est pris dans le même commun. Ce que je disais tout à l'heure, on est pris dans la question environnementale. Que voilà, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, le réchauffement climatique, vous le prenez. Alors quand vous êtes très vieux, en plus quand vous êtes fragile, c'est encore plus rude. Mais pour le reste, on a tout intérêt, non pas à se rejeter la responsabilité, mais juste à dire comment on coopère mieux pour moins consommer, pour consommer différemment, ainsi de suite, pour faire du covoiturage, que sais-je encore. Et donc Éloi a parfaitement raison. Il faut sortir de ah bah toi c'est facile et moi c'était comme ça, pour essayer de trouver des solutions ensemble.
Eh ben je voudrais qu'on écoute Laura, on écoutera Philippe dans la foulée, tiens. Jeune et vieux, enfin vieux, pardon Philippe. Laura, bonsoir d'abord.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Donc moi j'ai 32 ans et je voulais parler un peu des différences pour en avoir parlé avec ma maman. Donc moi clairement niveau écologie, je me dis au jour d'aujourd'hui que je ne ferai pas d'enfants parce que je ne sais pas dans quel monde je vais les mettre. Et voilà, pour en avoir parlé avec ma mère, c'est quelque chose, ils ne se sont pas posé la question eux. Pour eux c'était naturel de faire des enfants, pour nous ça devient compliqué. Après je pense qu'on se rejette tous la faute, mais qu'on a tous des torts et pas les mêmes. Nous on change de téléphone, on prend l'avion, on fait des erreurs et on a quand même une conscience, et je pense que eux ont fait des erreurs aussi, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de conscience, que ce soit écologique ou autre chose quoi.
Merci beaucoup Laura pour votre témoignage et pour cette mesure effectivement dans la balance. Bonsoir à vous Philippe.
Oui, bonsoir.
Je vous ai traité de vieux tout à l'heure, vous êtes à peine plus vieux que moi, donc je m'excuse. Allez-y, je vous en prie.
J'ai 67 ans.
Ah bon, vous êtes beaucoup plus vieux alors. Allez-y.
Ça ne m'aide pas. Je suis dans 52. Non, mais je voulais témoigner pour dire que justement, je m'en reconnais dans les premiers témoignages, là, parce que j'ai jamais été pratiqué la consommation effrénée. J'ai eu 3 voitures dans ma vie. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Je veux dire, là je me retrouve en retraite avec 900 euros par mois, sans absolument aucune augmentation depuis que je suis à la retraite, même pas en raison du coût de la vie. Quant à l'écologie, j'étais écologiste dans les années 70, j'ai fait plein de manifs contre les centrales nucléaires. Je lisais un journal que monsieur a cité, René Dumont, mais moi je lisais la gueule ouverte. on n'en parle plus de ça, mais on annonçait déjà tout ce qui va se passer maintenant, quoi. Alors, moi j'ai même ma belle-fille aussi qui m'a dit « Oui, c'est de votre faute si on en est là », donc ça rejoint ce que vous dites. Mais moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Alors, pas du tout.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Philippe. Philippe, qui a entendu des hockey boomers qui ne s'y reconnaît pas. Laura, juste avant, qui pourrait être à deux doigts de le prononcer, elle, mais qui ne va pas sur ce terrain-là parce qu'elle sait bien que les choses sont évidemment beaucoup plus équilibrées que ça, Serge Guérin. Si c'était aussi simple et si c'était aussi séparé, d'abord, ce serait dommage et ce serait tellement trop simple, en fait.
C'est ça, ça serait manichéen, triste et trop simple. Non, le truc, c'est face à ce qu'on peut... Maintenant, il y a une prise de conscience qui est quand même partagée, quelles que soient les générations, par, on va dire, 80% d'une manière ou d'une autre de la population. Mais encore une fois, avec une partie des gens qui n'en ont rien à faire. Une partie importante, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, mais que ceux qui en ont conscience, à eux, je dirais, à nous, ensemble, quels que soient nos âges, à la fois dans notre quotidien, mais aussi dans notre demande sociale, dans notre revendication, dans notre construction d'un commun, d'y réfléchir, et que peut-être ça sera un levier formidable pour réinventer un pays plus agréable à vivre aussi.
Gérard Cornillon.
Non, juste une remarque en passant, c'est de dire que historiquement, le conflit de génération a toujours aussi été instrumentalisé pour masquer d'autres conflits.
La question sociale.
La question sociale. Voilà.
La lutte des classes, la lutte des âges pour casser la lutte des classes. Il y a quand même quelque chose autour de ça.
Il y a quelque chose autour de ça. Et franchement, j'ai souvenir qu'en 1968, donc vous voyez bien de quel côté je suis, il y avait aussi cette manipulation. On a présenté mai 68 comme une révolte des jeunes contre les vieux. Et en fait, c'était pas ça. C'était aussi la volonté d'augmenter le SMIC qui était très très bas. Enfin bon.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette opposition qu'on marque aujourd'hui là, alors on parle très concrètement d'économie puisque c'est au moment des retraites que le débat est revenu, mais il y a aussi peut-être cette idée que les places à prendre sont toujours squattées par cette génération milléniale, notamment à la tête des entreprises, notamment alors en politique c'est peut-être un peu moins vrai effectivement depuis ces deux dernières années pour les raisons qu'on sait, mais qu'il y a cette idée que toute cette génération là en plus a squatté, pardonnez-moi l'expression, les bons postes, les bons endroits, et qui mettent un temps fou, au fond, à passer la main. Il y a peut-être aussi ça dans cette différenciation.
Oui, avec une belle contradiction entre le fait qu'il y a une exigence de prolonger le plus longtemps possible la vie active et le fait qu'il faudrait que les vieux partent vite.
Alors ça, pour ça, le coup, il y en a des contradictions autour de cette histoire de retraite.
Il y a un angle mort monstrueux, c'est que dans l'emploi, la pire des choses, c'est l'âge.
Bien sûr.
Donc la pire des stigmatisations, c'est l'âge. Donc en effet, d'un côté, place aux jeunes, d'un autre côté, oui, mais il faut que les vieux travaillent plus longtemps. Et puis,
Des seniors au chômage, on connaît le chiffre des seniors au chômage qui, évidemment,
c'est quand même une réalité
très, très,
très forte. Et c'est vrai que une partie des plus jeunes disent place aux jeunes, mais ceux qui tiennent la place, pour la partie qui l'ont, disaient la même chose il y a 30 ans. Donc ça, c'est un renouvellement aussi. Alors là, pour le coup, assez traditionnel.
Isabelle, vous êtes la dernière. Promettez-moi d'être un petit peu courte, mais vous soyez la bienvenue quand même. Bonsoir.
Bonsoir, merci de prendre mon témoignage. Je voulais dire d'abord que je suis d'accord avec les témoignages des premières personnes notamment qui ont parlé et aussi avec cette histoire de conflit de génération qui est là pour masquer la lutte des classes. Et je pense qu'il faut soutenir les jeunes et par exemple leur donner un statut correct par rapport aussi aux cotisations de retraite, etc., dès leurs études, puisque les jeunes font des études de plus en plus longues. Et je voudrais juste aussi dire que les légendes sur les baby-boomers, comme quoi on a tout eu, qu'on était optimistes, etc., moi, je suis née de parents qui étaient résistants, qui ont été en prison, qui ont failli être déportés, etc. Et à l'époque, on n'avait rien, on n'avait pas de vêtements neufs, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas... On allait au lycée sur des vieux vélos et je n'étais pas dans un milieu défavorisé. Et donc, je ne me sens pas du tout en conflit avec les jeunes et en compétition.
Et en opposition, ni en opposition, Isabelle. Merci
très
beaucoup.
Très vite adhérer à l'écologie, etc. D'ailleurs, ma fille est née à un magasin biologique, voilà.
Donc, elle est née dans un magasin biologique ?
Non, elle a un magasin
biologique. Ah non, magasin biologique, j'ai eu peur. Oh, je me suis dit, dites donc.
T'es bien éduquée.
Oui, dès le plus jeune âge.
Les graines gratuites jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. Et ce sera le dernier, en fait, qui résumera au fond ce que nous avons dit ce soir. Le sujet n'est pas clos. Merci beaucoup et portez-vous bien.